Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Bamako, même heure à Gundam dans la région de Tombouctou. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans cette édition qui vous sera détaillée dans un instant. En attendant, voici les titres. Le général de division Abdoulaye Maïga est le tout nouveau premier ministre du Mali. En moins de 24 heures, il a formé un gouvernement de 28 membres, dont 7 nouveaux entrants. Pour des analystes, le nouveau premier ministre doit s'atteler à redynamiser les concertations entre la classe politique. La protection des droits des femmes au cœur d'une rencontre ce matin à Bamako. La prévention et la lutte contre les pratiques corruptibles ont dominé les échanges. Je suis Fatia Tara, Philly Dambélé assure la technique. Merci, je le disais dans les titres, le général de division Abdoulaye Maïga est le nouveau premier ministre du Mali. L'ancien porte-parole du gouvernement a été désigné ce jeudi par le général d'armée Assimi Goïta pour conduire la destinée de la transition. Cette nomination du chef de gouvernement est intervenue au lendemain de l'ilomojage du premier ministre Choguel Kokala Maïga et la dissolution du gouvernement. Les détails avec Imirana Kilou Maïga.
Âgé de 43 ans, le général de division Abdoulaye Maïga devient ainsi le troisième chef du gouvernement sous la transition après Moctar Ouane et Choguel Kokala Maïga. Abdoulaye Maïga a été jusqu'à sa nomination ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement. Il est connu pour ses sorties à la télévision nationale pour dénoncer les actions entreprises contre le Mali avec son slogan « Je répète ». Le général Maïga ne fait pas partie des militaires qui ont pris le pouvoir en août 2020. Cependant, il est considéré comme l'un des piliers aujourd'hui. Le nouveau chef du gouvernement est docteur en sécurité internationale et défense obtenu en 2011. Le nouvel homme fort de la primature a un master 2 en droit de l'homme et droit international humanitaire obtenu en 2011 à l'université d'Evryval-Dessonne en France. En 2022, Abdoulaye Maïga avait déjà été nommé premier ministre par intérim au moment où Choguel Kokala Maïga était hospitalisé à la suite d'un AVC. Sa nomination intervient moins de 24 heures après le limogeage de Choguel Kokala Maïga. Ce dernier, lors d'un meeting, a adressé des critiques sur la gestion de la transition.
Sur le même sujet, les membres du nouveau gouvernement de transition sont enfin connus. C'est une équipe de 28 membres, dont 18 anciens et 7 entrants. Ce nouvel exécutif a été formé en moins de 24 heures après le limogeage du premier ministre Choguel Kokala Maïga et la dissolution de son gouvernement, Moussa Malé Sissoko.
Au total, 21 membres de l'ancien gouvernement sont reconduits. Parmi eux, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, il reste au ministère de la Réconciliation nationale, le général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et la Protection civile. Le ministère de la Justice, un autre portefeuille stratégique, est toujours tenu par Mamoudou Kassougué, ministre de l'Économie et des Finances par Alousseni Sanou. Abdoulaye Diop garde son portefeuille des affaires étrangères et de la coopération internationale. Le général de division Abdoulaye Maïga cumule la primature et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il y a 7 nouveaux entrants. Le ministre de la Culture Andogoli Guindo cède sa place à Mamou Dafé. L'environnement est désormais confié à Madame Doumbia Mariam Tangara. Madame Oumoussal Sek est la nouvelle ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Parmi ces nouvelles nominations, des visages inconnus font leur entrée comme Boubacar Diané au poste du ministre de l'Énergie et de l'Eau et également Bakary Traoré comme ministre de la Refondation à la place de Ibrahim Ikassa Maïga. Le statut du ministre d'État est définitivement révoqué. Sur les 28 ministres figurent seulement 5 femmes.
Merci à Moussa Malé pour les détails. Pour Ibrahim Mamadou Kone, enseignant en sciences politiques à l'université de Bamako, le nouveau premier ministre doit s'atteler à redynamiser les concertations entre la classe politique et les organisations de la société civile. Il doit être un rassembleur et incarner les changements tant attendus par les Maliens. Il est joint par Imirana Kilou Maïga.
Ce qui est fondamental, pour moi, l'ancien premier ministre a travaillé plutôt à diviser la classe politique, plutôt à créer des divisions au sein de la classe politique et de la société civile. Pour moi, le nouveau premier ministre doit s'appeler aujourd'hui à redynamiser les cadres de concertation des partis politiques en tant que premier ministre et qui va aller dans le sens de l'apaisement de la situation sociopolitique. Aujourd'hui, la priorité doit être ça et la deuxième priorité doit être de mieux orienter également les réformes en cours sous cette transition, mais en le faisant sans exclure aucun acteur politique, sans exclure aucun acteur de la société civile. Le Mali a besoin de consensus. Ce consensus, on ne peut pas le créer sans que le premier ministre soit l'homme de la situation, un homme qui incarne les changements, un homme qui incarne le dialogue social.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. La Fédération nationale pour l'autonomisation des jeunes filles et femmes a organisé un atelier de prévention et la lutte contre les pratiques corruptibles qui affectent les droits des femmes et des filles. Cet espace d'échange et de partage d'informations avec les structures de prise en charge des cas de corruption a eu lieu ce jeudi à Bamako. Plus de 60 représentants de la société civile, des acteurs de lutte contre la corruption et des violences basées sur les genres ont participé à la rencontre. Fatoumata Koudjou.
Pour Aramata Djakité, directrice exécutive de la Fédération nationale des jeunes filles et des femmes, FENAJFA, ce cadre a pour objectif de faciliter aux femmes l'accès des services publics, les informer sur leurs droits et la corruption dont elles sont les principales victimes.
En cas de besoin à la justice, elles ne savent pas où se référer. Et également, les structures qui sont là pour les prendre en charge n'ont pas les méthodes adaptées pour prendre ces cas-là en charge. C'est pour cela que nous avons initié cet atelier pour échanger avec les One Stop Center, les polices, pour qu'ils puissent intégrer les systèmes de prise en charge des cas de corruption spécifiques à la gente féminine.
De leur côté, les participants estiment que cette session permettra de renforcer leurs capacités pour mieux lutter contre la corruption et la violation des droits des femmes.
Avant, on est là, mais on n'avait pas nos mots à dire contre la corruption. Mais maintenant, nous sommes au centre même pour sensibiliser.
Nous sommes confrontés, premièrement, au silence des victimes. Pour intégrer n'importe quelle fonction structurelle au Mali ici, 43 à 53% de ces femmes qui viennent vers nous, elles intègrent ces fonctions-là, exposant leur corps.
Le ministère en charge de la justice et celui de la promotion de la femme et de la famille soutiennent également cette initiative pour la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes filles.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre dossier de la semaine s'intéresse aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont facilité l'interconnexion des individus, mais ces plateformes ont offert la possibilité à tout le monde de s'exprimer sur tous les sujets sans un encadrement. Des tradithérapeutes ou même des tierces personnes font la promotion médicale d'un produit. Ces pratiques ont des conséquences sur les populations et elles sont même interdites par la loi. Plus de précisions avec Amadou Sadio Camara.
Pour le prêche, les acteurs justifient leur présence sur les réseaux sociaux par la volonté de répondre aux exigences de l'époque. Ousmane Kani est imam et pour lui, être sur les réseaux sociaux lui permet de mieux véhiculer son message et atteindre un large public très facilement.
Si l'on veut évoluer avec les temps, il faut impérativement être sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent d'accéder à un large public facilement et de mieux véhiculer les messages.
Quant à la publicité médicale, il est difficile d'accéder aux auteurs, surtout à cause des récentes arrestations. Mais les citoyens à Bamako ont leur avis à donner sur ces tendances.
Les enseignements ou encore les faïdas donnés par les prêcheurs ne nous servent à rien. Ça ne diminue pas nos difficultés. Si le médicament est de qualité, on n'a pas besoin de l'exposer sur les réseaux.
Il y a des marabouts qui donnent certains enseignements qui servent à quelque chose. Mais concernant les médicaments, ça je ne suis pas d'accord avec. Généralement, c'est des gens qui m'énervent. Il y a la galère et ils viennent en rajouter.
La publicité médicale, qu'elle soit sur la médecine traditionnelle ou sur la médecine moderne, est formellement interdite au Mali et les praticiens s'exposent à des sanctions. Docteur Kalidou Konye, chargé des formations et des communications adjoint du Conseil national de l'Ordre des médecins du Mali.
Ces sanctions vont, entre autres, à l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercer et même la radiation au tableau de l'Ordre. Quand il est radié, c'est fini, la personne ne peut plus exercer la profession médicale au Mali et tous les pays qui ont les réciprocités avec le Mali.
Toumani Diakité, secrétaire général de l'Association des tradithérapeutes du Mali, affirme que la publicité médicale en médecine traditionnelle peut inciter les internautes à l'automédication, une pratique dangereuse, dit-il.
Au sein de notre fédération, à peu près 98% des tradithérapeutes ne font pas de publications sur les réseaux sociaux. Donc l'automédication, je proscris vraiment l'automédication, surtout en médecine traditionnelle. L'identification des plantes pose un problème chez les usagers. Les noms vernaculaires de la plante aussi diffèrent d'une région à l'autre.
À noter que nos efforts pour avoir l'instance qui est en charge de la réglementation des réseaux sociaux ont été vains. Ces responsables n'ont pas souhaité réagir. Toutefois, ils confirment l'interdiction de cette pratique par les textes.
Auditeurs, auditrices, faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez également réécouter gratuitement ces journaux et les magazines qui vont suivre en appelant les services Kounafoni au 37 3D1. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs CFA de crédit dans votre téléphone. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci d'avoir choisi Studio Tamani, mais ne décrochez pas dans un instant les magazines. Ensuite va suivre les grands dialogues. Alors bonsoir Mariam Maïga, quel est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui?
Bonsoir Fatih Yatara, l'actualité oblige. Ce soir, nous allons parler du limogeage de Choguel Kokalam Maïga et de la nomination de Abdoulaye Maïga comme chef du gouvernement et dans la foulée, la formation de la nouvelle formation gouvernementale. Pour en parler, nos invités sont tous des universitaires. Docteur Ngolo Diarra, Docteur Suleiman Keïta et Docteur Ahmadou Touré.
Merci Maria Maïga et merci à nos auditeurs. Merci d'avoir choisi Studio Tamani. Au Mali, les enfants sont admis à l'école généralement entre 6 et 7 ans. Selon des pédagogues, c'est l'âge indiqué pour apprendre à lire et à écrire. Cependant, il faut des enseignants expérimentés pour bien encadrer ces tout petits, estiment des responsables scolaires. Les enseignants de leur côté précisent que de dispenser des cours à ce niveau n'est pas une tâche facile. Les magazines Tous les enfants d'aujourd'hui s'intéressent à l'enseignement des élèves et de la première année. Une réalisation de Ousmane Yalibouli avec l'appui de nos correspondants à l'intérieur du pays.
À 7 ans, c'est l'âge idéal pour inscrire un enfant à l'école. C'est aussi la période où l'enfant peut apprendre à lire et à écrire, soutient Dr Daouda Sako, pédagogue.
En première année, très souvent, on apprend à lire petit à petit, à écrire, à construire quelques petites phrases, faire des leçons de morale, de bonne conduite. Pour l'âge idéal d'inscription à l'école, en tout cas, à notre temps, c'était 7 ans. Moi, je crois que c'est l'âge où l'enfant est censé comprendre ce qu'on lui dit, bien faire ce qu'on lui demande. 6-7 ans, vraiment, c'est l'âge idéal pour inscrire un enfant à l'école.
Pour la directrice de l'école fondamentale Jean-Richard A. Madame Maïga, Awa Maïga, enseignée en première année, nécessite une certaine qualité, parmi lesquelles la directrice cite entre autres l'expérience, la disponibilité, la dévotion et la patience.
Pour enseigner la première année, on a besoin d'un maître chevronné, patient, qui a eu beaucoup d'années de service. Donc c'est à travers ces critères-là qu'on choisit le maître de première année. Parce qu'il faut qu'ils soient disponibles, parce que c'est des petits enfants. Ils doivent avoir l'amour, la passion du service, comme on le dit, parce que c'est pas facile avec les petits enfants. Ils quittent la maison, ils quittent le jardin. Donc pour les encadrer même, il faut être patient.
Et à Jean-Richard, le soin a été porté cette année sur Madame Keïta Ramata Diakité. Cette enseignante de cet établissement public pense qu'il faut avoir un bon sens d'observation et d'écoute pour mieux encadrer ces tout petits.
Ce sont des enfants. On se met à la place de ces enfants-là. On les observe. On fait comme on peut, quoi. On se met à leur niveau, les enseigne ce qu'ils peuvent faire.
Cet avis est partagé par Madame Djakité Tenedjara, enseignante en première année au groupe scolaire Souri Djakité de Amdalaï en commune 4 du district. Cependant, elle évoque quelques contraintes qu'il faut gérer avec courage.
La patience, la vocation, aimer les élèves.
Avec les tout petits, tu es en train de faire ton cours, il vient me dire que je vais sortir, de s'amuser. Tu vas dire de sortir dans la classe. Les petits enfants, qu'est-ce qu'ils savent? Quand tu les vois en train d'amuser, tu les appelles pour qu'ils puissent s'asseoir, pour montrer qu'ils viennent ici pour étudier.
À Bamako, Ségou et Yuaru, dans la région de Mopti, des parents affirment s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Pour eux, l'enfant doit être bien préparé depuis la première année de l'école.
Il vient, bon, je leur demande, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah ouais, Ségou ici. Pareil, chez mon mari aussi. On est tous impliqués dans l'éducation.
Chaque matin, j'amène et ramène mon enfant de l'école. Leur réussite dépend de l'éducation qu'ils reçoivent.
Je scolarise mes enfants à Yuaru. S'ils reviennent à la maison, je leur demande le programme de la journée. Ils répètent les leçons apprises à l'école et si c'est correct, ils sont félicités. Dans les cas contraires, je donne la bonne formule. Je les aide à lire et à écrire.
Après leur retour de l'école, je leur demande ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Je m'intéresse toujours à ce qu'ils font à l'école.
Rappelons que pour un meilleur suivi des premiers pas de l'enfant à l'école, certains estiment que l'apport des parents est indispensable. Par exemple, faire coucher tôt l'enfant, le réveiller à temps pour l'école et faire avec lui ses exercices.